Bonjour à toutes et à tous, il est 3h en temps universel, 5h à Paris et à Rome, vous êtes sur RFI.
Léa Boutin-Rivière.
250 000 personnes réunies sur la place Saint-Pierre et pourtant, le silence, les obsèques du pape François ont eu lieu hier à Rome. En plus des fidèles, des centaines de dignitaires étaient présents. L'occasion d'évoquer certains dossiers diplomatiques. Le temps presse pour Kinshasa et Kigali. Les deux voisins ont moins d'une semaine pour trouver un accord de paix. C'est l'engagement qu'ils ont pris dans une déclaration signée vendredi à Washington. Et puis, consacrer 30 ans de sa vie à la recherche d'une chouette en or, c'est ce qu'ont fait des milliers de détectives amateurs depuis 1995, dans l'espoir de remporter un trésor. Depuis, l'enquête a été résolue, mais les déçus ont une nouvelle chance, vous l'entendrez. Une marée rouge, blanc et or sous un ciel d'un bleu éclatant. Des centaines de cardinaux et des milliers de prêtres ont assisté hier aux funérailles du pape François. Surtout, 400 000 fidèles se sont pressés sur la place Saint-Pierre au Vatican, jusque sur les rives du Tibre et même devant le Colisée pour voir passer la papa mobile et le cercueil du pontife. Cela c'est pour les images publiques, mais entre les murs de la basilique Saint-Pierre se sont jouées d'autres scènes, dont la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump, leur première depuis leur altercation à la Maison-Blanche début mars. Sans surprise, cerise sur le gâteau, les deux hommes ont évoqué les discussions de paix en Ukraine.
Des rencontres avec Donald Trump, Emmanuel Macron, mais aussi avec l'italienne Giorgia Meloni, le britannique Keir Starmer, la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore des représentants du Vatican. Présent aux funérailles du pape François, le président ukrainien en a profité pour faire de la diplomatie tous azimuts et marteler le message qu'il tient depuis plus d'un mois. Pas de pourparlers de paix sans un cessez-le-feu préalable avec la Russie. Sa rencontre avec Donald Trump en particulier a beaucoup fait parler. Une photo diffusée par le gouvernement ukrainien montre les deux hommes dans la basilique Saint-Pierre, assis sur des fauteuils rouges et penchés l'un vers l'autre. Le président américain a salué une rencontre constructive, quand Volodymyr Zelensky affirme qu'elle a été symbolique et pourrait même devenir historique. Une façon d'occuper le terrain alors que de son côté la Russie affirme avoir repris le contrôle de la province de Koursk où les Ukrainiens avaient lancé une offensive en août 2024. Ces derniers ont démenti l'information, affirmant que des combats se poursuivaient. Cerise sur le gâteau, Kiev, RFI.
Et semblant changer de pied alors qu'il était jusque-là plus conciliant avec Vladimir Poutine, Donald Trump s'est mis hier à douter de son homologue russe. Ce dernier a pourtant affirmé qu'il était prêt à négocier sans aucune condition préalable. Déclaration prise avec des pincettes par le président américain après les frappes meurtrières de cette semaine contre Kiev. Il n'y avait aucune raison pour Poutine de tirer des missiles sur des zones civiles, a-t-il déclaré. Cela me fait penser que peut-être il ne veut pas arrêter la guerre. L'espoir d'une paix à Gaza mais bien ténu à l'issue d'une rencontre diplomatique au Caire. Le Hamas s'est dit prêt hier à libérer en une fois la totalité des otages toujours détenus dans l'enclave palestinienne en échange d'une trêve de 5 ans. Israël n'a pas commenté, mais hier, les frappes se sont poursuivies dans la bande de Gaza. 35 personnes ont été tuées, selon la défense civile. Le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, Mahmoud Abbas, a lui aussi pris la parole hier. Mais pour se désigner un possible successeur, il a choisi pour le poste de vice-président fraîchement créé un proche, Hussein Al-Sher, qui pourrait donc devenir son successeur. Une épaisse fumée noire envahit depuis hier le ciel du port de Shahid Rajaï en Iran. 14 personnes sont mortes, 750 autres ont été blessées, dont 300 hospitalisées, dans une explosion intervenue à la mi-journée sur ce qui est le plus important port du pays. Le président Massoud Pezeshkian a ordonné une enquête pour établir les causes de la déflagration. Les partis politiques kurdes syriens mobilisés pour se faire une place au sein du nouveau gouvernement. L'administration autonome kurde a organisé hier sa conférence de dialogue en réponse à celle organisée par les FDS au pouvoir et dont elle avait été exclue. Bilan, une série de revendications mais aussi des conditions préalables pour intégrer la tête de l'État, Mohamed Erami.
Ils appellent à la création d'un État doté d'un système parlementaire fondé sur le pluralisme politique, la passation pacifique du pouvoir, la séparation des pouvoirs et le respect des différentes identités ethniques, religieuses et culturelles, avec une attention particulière portée aux droits nationaux du peuple kurde. Dans leur déclaration, les Kurdes ont également demandé que la future constitution syrienne garantisse l'engagement du pays à respecter les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, protège les libertés et les droits des femmes et assure leur participation active dans l'ensemble des institutions. Ce que nous voulons, ce n'est pas diviser la Syrie, mais construire une patrie pour tous où chacun a sa place, sa langue, sa culture, ses droits, a déclaré Mazloum Abdi, le commandant des forces démocratiques syriennes, en ouverture de la conférence. Les partis kurdes ont également mis en avant la question linguistique, exigeant la reconnaissance constitutionnelle de la langue kurde comme langue officielle aux côtés de l'arabe et que le nom de l'État, son drapeau et son hymne national reflètent la diversité ethnique et culturelle de la société syrienne. La déclaration finale constitue ainsi un appel clair à la révision de la constitution dont le président syrien Ahmed al-Shara avait approuvé une version initiale à la mi-mars. Mohamed Erami, Damas, RFI.
RFI, il est 3h06 à Kinshasa, 4h06 à Kigali où des discussions diplomatiques ont également lieu. Le temps presse pour la République démocratique du Congo et le Rwanda puisqu'ils ont moins d'une semaine pour parvenir à une ébauche d'accord de paix comme ils s'y sont engagés dans la déclaration de principe signée vendredi à Washington sous le regard du secrétaire d'État Marco Rubio. Un texte qui se présente comme gagnant-gagnant, Patient Ligodi.
Pour le gouvernement congolais, il y a d'abord l'arrêt de l'avancée de la FCM23. Kinshasa obtient aussi l'insertion dans la déclaration de la reconnaissance du respect de l'intégrité territoriale, ainsi que le principe bannissant toute action ou discours remettant en question la validité des frontières. Le texte engage également le Rwanda à ne pas fournir de soutien à la FCM23. De son côté, Kigali obtient le même engagement de la part de la RDC concernant les FDLR. Autre point stratégique, le commerce du secteur minier. L'intégration de cet aspect dans la déclaration constitue, selon des experts, un avantage pour le Rwanda qui dispose d'une avance dans ce domaine et se positionne déjà comme un hub régional. Le pays est équipé notamment d'une fonderie d'étain, d'une raffinerie d'or et d'une raffinerie de tantale, renforçant ainsi sa capacité à traiter localement des minerais stratégiques. La FCM23 apparaît également comme un gagnant. Le mouvement peut désormais négocier officiellement avec Kinshasa, ce qui était jusqu'à récemment une ligne rouge. Enfin, les États-Unis sortent renforcés dans leur rôle de faiseur de paix. Ils pourront faciliter l'arrivée de sociétés commerciales américaines dans un secteur minier stratégique, notamment au Sud Kivu, jusque-là à la merci des sociétés dont certaines chinoises opérant souvent illégalement.
Patient Ligodi. Les déçus de la première chasse à la chouette d'or ont une nouvelle occasion de voler la victoire à leurs adversaires. Une nouvelle édition de cette mythique chasse au trésor a débuté jeudi, 2 ans après la fin de la première, qui s'était étalée sur 3 décennies. En 1993, un créateur d'énigmes avait caché un volatile en bronze et publié une série d'énigmes donc pour découvrir la cachette du trésor avec pour récompense la version originale de la sculpture en or et en diamant. Et des milliers de chouetteurs, c'est comme ça qu'ils s'appellent, se sont mobilisés pendant des années pour faire tomber la proie dans leur filet et le défi a donc repris, sauf que cette fois il est loin de donner des ailes à tous les adeptes. À l'image de Jean-Michel, chouetteur assidu depuis 1995, il n'a jamais arrêté de chercher le premier volatile local.
Jean-Michel avait 30 ans quand il a commencé à chercher la chouette d'or. Une quête qui le passionne tout de suite.
Même en travaillant, j'y arrivais à chercher. Il me faut simplement une feuille de papier A4 avec des petits carreaux. Parce qu'en fait, il y a des décryptages à faire. Quand on croit qu'on est sur la bonne piste, c'est eureka, quoi. C'est un sentiment très exaltant, quoi.
Mais le plus excitant, c'est d'aller creuser pour déterrer le trésor.
Donc j'avais une pioche, j'avais un détecteur de métaux, tout ça dans un sac. On y allait la nuit en mode commando pour pas se faire repérer. Et il y a plein d'anecdotes. On a une, par exemple, on est allé avec un cousin à moi, qui était un ancien militaire. Dès qu'il y avait une voiture qui passait dans le chemin, et ben on se précipitait dans les fourrés.
La chouette aurait été trouvée en octobre 2024, mettant fin à plus de 30 ans de quête. Pourtant, Jean-Michel, lui, cherche encore.
Il faut savoir que la communauté des joueurs se divise en deux catégories. Celles qui croient qu'elle n'a pas été découverte et celles qui croient qu'elle a été découverte. Je cherche encore la première chouette. Je pense toujours savoir où elle est, bien entendu, comme tout le monde, hein, comme beaucoup de gens.
Cette nouvelle chasse au trésor, Jean-Michel n'y participera pas. Pour lui, les énigmes ne seront jamais à la hauteur de la première. Son auteur est depuis décédé. C'est l'artiste créateur de la statue de la chouette, Michel Baker, qui a repris le flambeau.
Espérons qu'il faudra un peu moins de 30 ans pour trouver la prochaine chouette. Vous écoutez RFI, il est quasiment 5h10 ici à Paris. 2 heures de moins en temps universel.